BFM Business, l'heure H, la question du jour.
François Roudier, merci d'être là. C'est plutôt une bonne journée pour vous. Vous êtes porte-parole, faut-il le rappeler, du comité des constructeurs français d'automobiles, le CCFA. Vous avez publié des chiffres ce matin qui montrent qu'au mois de juin, en tous les cas, le marché repart. Et notre fameuse courbe en V, eh ben ça y est, on l'a trouvé avec vous.
Oui, on est quand même très heureux parce qu'on avait vraiment un U terrible inversé sur 2 mois et demi où rien ne se passait. Et là, on a un redémarrage qui est très bon, hein. Qu'on attendait un petit peu puisque les commandes tombaient en mai, et là on a des réalisations de commandes, donc des immatriculations réelles qui sont bien arrivées ce mois de juin.
Oui, en même temps quand on regarde ça c'est drôle, on parlait de Peugeot, de Renault, Renault qui sourit, qui va plutôt bien, Peugeot qui va plutôt mal, moins 9,1%. Alors, comment vous expliquez ça?
Oui,
comment il faut interpréter? Vous savez bien qu'on aime bien interpréter vos chiffres, François Roudier.
Alors attention aux effets de comparaison par rapport au mois de l'année précédente. Là où PSA avait fait une très bonne année, ils sont un petit peu moins en volume cette année, et Renault avait manqué de modèles à l'époque, donc a eu tous ces modèles qui sont arrivés. Après, vous avez des politiques de pricing différentes selon les sociétés, et des clients qui peuvent être aussi différents, donc des entreprises d'un côté, peut-être plus de particuliers. Donc tout ça après est à voir société par société.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai votre tableau devant moi. On voit qu'effectivement, donc il faut relativiser par rapport à l'année dernière. C'est ça que vous dites.
Voilà, toujours.
Mais du reste, Jean-Dominique Senard, le président de Renault, du groupe Renault, l'avait expliqué ici en disant on va voir arriver des bons modèles sur le marché. Oui. C'est la confirmation aujourd'hui.
Ah oui, tout à fait. On a un vrai carton des Renault sur les 20 premières voitures vendues. De nouvelles voitures arrivent prochainement. Donc Luca De Meo a vraiment un beau portefeuille de voitures pour redémarrer la société.
Donc le travail est déjà fait, c'est ça que vous voulez
le
dire?
Le travail sur le plan des produits, vous savez, il est fait depuis 2014. Les modèles qui arrivent dans nos concessions automobiles ont été décidés en 2014. Cette inertie dans l'automobile n'est pas tout le temps comprise par nos politiques.
Oui, c'est ce que dit de temps en temps Philippe Varin, ancien patron de PSA, qui dit de Peugeot Citroën, tout le monde dit Tavares fait un boulot formidable, mais finalement les voitures qui arrivent aujourd'hui, c'est lui qui les a décidées, non? Je me trompe?
Exactement, voilà.
Il aime bien remettre de temps en temps les pendules à l'heure. Ça fait du bien. On regarde les groupes étrangers, bon, progression négative, mais il y a des hauts et des bas, parce qu'on voit le BMW, par exemple, ça cartonne, les Mini cartonnent.
Oui, alors il y a eu des effets sur des groupes qui ont des clientèles extrêmement spécifiques. Alors je pense à BM et Mini, parce que là c'est vraiment des marchés où les fans achètent ces véhicules. Vous avez le troisième groupe qui va en France, qui est le groupe Volkswagen. C'est très intéressant parce que toutes ces marques sont plutôt en négatif, sauf Skoda. Donc Skoda, qui est une marque plutôt low cost, a très bien performé, ce qui prouve qu'avoir un panel de marques luxe low cost dans son escarcelle, c'est vraiment très intéressant. Puis à côté de ça, vous avez des petites marques qui avaient des véhicules de niche qui ont bien fonctionné. J'ai vu que Mitsubishi en particulier et Suzuki avaient fonctionné sur des petits points. Et en fait, on a un marché qui a été tiré par les petits véhicules. Les particuliers, la part des particuliers, c'est-à-dire les vrais gens dans ce qu'on appelle voiture particulière par rapport aux entreprises, a monté considérablement. Elle doit être à peu près au-delà de 50%, et ces gens-là ont pris des petites voitures.
Cela dit, on va voir, parce qu'il y a des prévisions assez noires quand même sur l'ensemble de l'année. En tous les cas, c'est ce qu'on dit avec le directeur commercial et vous aussi. Juste un petit clin d'œil, moins 100% pour Rolls-Royce, parce qu'il y a eu zéro Rolls-Royce vendu. Voilà. Il y en avait une l'année dernière. Plus sérieusement, François Roudier, effectivement, le directeur commercial dit qu'il faut s'attendre à une chute de 20% sur l'ensemble de l'année. Vous êtes grosso modo dans cette épure-là.
Oui, alors nous, on est dans une épure de moins 20 à moins 30. Alors le CCFA est toujours très très dramatique dans ses prévisions et on a tendance des fois à noircir le sujet. En fait, ce qui nous pose problème pour nous, c'est qu'après cette période de reprise que nous vivrons encore ce mois-ci, que nous allons vivre aller jusqu'au début du mois d'août, après au mois d'août les concessions sont fermées, les Français sont en vacances, on va engager la période de relance. Et cette période de relance doit fonctionner comme un marché automobile à peu près normal. Or, nous avons deux inconnus, le moral des ménages et le moral des entreprises. Sur le moral des ménages, on peut penser que les CSP+, qui ont encore les moyens de s'acheter des véhicules, vont continuer. Donc on risque d'avoir une baisse, mais je dirais sur des gens qui ont une vision assez fragile de leur emploi, avec tous les événements qui arrivent à l'heure actuelle, on voit qu'effectivement c'est un risque. Sur les entreprises, c'est beaucoup plus complexe parce que certains grands secteurs peuvent avoir de très gros problèmes. Je pense au BTP en particulier, qui est un très bon client de l'automobile, sur les voitures d'entreprise et sur les véhicules utilitaires. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un effondrement dans le BTP ? Donc là-dessus, nous avons pour la première fois une impossibilité à sortir un chiffre vraiment calculé sur le marché de l'année.
Oui, sur les véhicules utilitaires
Ça se porte très bien actuellement.
Ça
se porte très bien parce qu'en fait, ça caractérise une donnée des ventes automobiles. Ça caractérise le fait que l'automobile est un besoin. Alors, c'est certes un plaisir dans les publicités, mais c'est surtout un besoin. Donc, quand vous avez freiné le besoin pendant 2 mois et demi pour les particuliers et entreprises, vous le retrouvez très vite dans l'acquisition.
Oui, en même temps, c'est paradoxal parce qu'on arrive à un moment où tout le monde veut supprimer la voiture. Donc, c'est là où un peu les contradictions françaises, non ? Ou la schizophrénie.
Oui, alors il y a une sorte de schizophrénie actuellement sur la place de l'automobile dans les villes, dans certaines villes. Hein. Et il faut penser maintenant qu'on va vivre avec une automobile des villes et une automobile des champs. Et le volume va plutôt vers les champs, hein, vers le territoire. Là, on a des offres qui sont compliquées, des systèmes de livraison, distribution dans les villes qui sont à prendre en compte et qui là aussi deviennent un casse-tête. Hein, le problème du dernier kilomètre qui va pousser des petits véhicules plutôt que des vrais gros véhicules. Donc peut-être que c'est une opportunité pour nos VUL électriques que lance d'ailleurs PSA et qu'on lançait déjà depuis longtemps Renault.
VUL, c'est véhicules
hyper légers, hein, les petites camionnettes, comme on les appelait dans les années 50. Et à côté de ça, vous avez une demande de plus en plus forte d'automobiles qui risque d'être accélérée par l'effet télétravail post-Covid. C'est-à-dire que tous ces gens qui partent maintenant loin de la ville centrale ont besoin d'une automobile. Et on voit des demandes qui sont un peu consécutives aux demandes de maison plus jardin qu'on voit sur le Bon Coin.
Oui, maison plus jardin plus voiture, en tous les cas, voilà, c'est le programme. Lorsqu'on regarde aussi les primes de conversion, parce qu'il y a donc une mesure de soutien à l'automobile, il y a près de 100 000 primes à la conversion qui ont déjà été utilisées pour le mois de juin. Et c'est la moitié des fonds...
C'est la moitié des 200 000. Oui. C'est la moitié des 200 000. Alors, on n'a pas encore la répartition exacte entre l'occasion et le neuf. Hein, c'est sûrement l'occasion qui en a beaucoup profité. Le marché de l'occasion a monté de 29% ce mois-ci. Hein, donc, on voit que l'appétence pour l'automobile existe. Hein, on n'a pas forcément les moyens de se payer du neuf, mais on peut se payer de l'occasion. Et vous avez, sur ces primes... un effet normal, c'est que cet effet normal, lorsqu'on offre du bonus aux citoyens, ils le prennent. Ça c'est toujours vérifié.
Oui.
Cette prime à la conversion, c'est une évolution d'une prime qui existait déjà, qui est devenue une sorte de prime à la casse, mais pour un temps limité. Parce que, souvenez-vous, on devait résoudre le problème de 400 000 voitures qui étaient en stock dans nos concessions et qu'il fallait sortir pour retrouver un marché normal. Donc il y aura une fin à cette prime à la conversion, peut-être une fin en sifflet parce qu'il ne faudra pas frustrer le 200 000 unième personne qui n'y aura pas droit. Donc c'est ce qui est en discussion au niveau de l'État, mais ça ne va pas durer tout le temps. Et nous, on ne le souhaite pas parce qu'on ne peut pas avoir des ventes qui deviendraient non pas des déstockages, mais des ventes par anticipation.
Et donc,
ce serait le marché qu'on retrouverait après. C'est-à-dire que lorsqu'on avait eu les effets de prime à la casse de 2009, on avait vu un marché 2013 qui avait plongé complètement.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui étaient du reste, le directeur de la marque Peugeot ici.
Jean-Philippe, voilà.
Qui était très opposé à ça. Il est venu l'expliquer ici devant Christian Jacobusine.
Tout à fait. Hein, autant nous sommes totalement pour l'aide aux véhicules nouvelles énergies, autant sur les véhicules thermiques, il faut être prudent. Des stockages, oui, mais pas d'anticipation de
vente. Le stock de 400 000 voitures, aujourd'hui, on en est où ?
Il doit être à peu près... il doit commencer à s'écouler à plus de la moitié. Hein. Le stock peut être encore là, mais vous avez des commandes. L'indice des commandes qu'on devrait sortir cet après-midi est bon.
Allez-y, parce que voilà. Hier, on est cet après-midi.
On l'a pas encore. Non, j'ai pas encore le chiffre, mais je sais qu'il est positif, bon. Ce qui veut dire qu'on va avoir encore beaucoup d'immatriculations en juillet. Donc, on va vraiment évacuer tous ces stocks sur juillet.
Et quand on regarde notamment par rapport à la voiture électrique, est-ce qu'on peut dire que il y a une appétence des Français ou toujours un peu réticent ? Comment est-ce que ça vous voyez les choses ?
On est sur une courbe très intéressante parce que sur 6 mois, sur l'électrique pure, on a dépassé les 6%. Or, on traîné au-dessous de 2% pendant des années. Hein. Les deux dernières années, on n'atteignait même pas les 2%. Là, on est à plus de 6%, on va être à 6,2%, 6,3%. Et on voit que sur l'hybride, on a le même effet. On est à près de 12%, dont une montée de l'hybride rechargeable assez incroyable. On est à 4%, voire 5% en hybride rechargeable. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la sortie des nouveaux modèles, donc toutes les offres de nouveaux modèles qu'on voit dans nos publicités, on voit qu'on trouve le client. Et donc, ce marché est en train de se monter. Et on est rassuré parce qu'on avait vraiment travaillé depuis l'année dernière, d'ailleurs, avec l'État pour avoir des bonus pour les particuliers, pour les entreprises, sur l'hybride rechargeable. Et là, ça a l'air de bien fonctionner.
À vous écouter, puisque les clignotants sont plutôt verts, hein, donc ça, c'est plutôt un bon point. On se demande pourquoi on avait besoin d'un plan de soutien à l'automobile de 8 milliards d'euros.
Mais si on fait de l'Uchronie, si on n'avait rien fait, on serait actuellement dans une catastrophe complète.
Vous croyez vraiment qu'elle a
complète
plein.
Oui, on aurait une catastrophe complète parce que vous auriez des concessions qui n'auraient plus de trésorerie, qui seraient en cessation de paiement. Hein, tout cela a permis d'avoir une arrivée de cash dans la machine et des clients qui seraient surtout les chasseurs d'affaires, donc des clients assez peu intéressants pour le business automobile.
Vous avez justement, parce qu'on sait que Peugeot a fermé une dizaine de concessions en Ile-de-France. Hein. Il y a combien de concessions qui ont fermé là pendant...
Ce serait 11 chez Peugeot.
Oui, mais au total.
On n'a pas encore le chiffre. Visiblement, les affaires ont encore tenu. Hein. Le but, c'est d'essayer d'éviter les cessations de paiement. Sur la fin de l'année, c'est moins sûr. C'est moins sûr parce que on pourrait avoir.
Mais vous êtes à combien là pour l'instant? Vous avez bien
le chiffre. Alors, comme on représente pas les concessions nous directement, c'est plutôt le Conseil des nationales des professions automobiles qui suit le dossier. Les concessions qui sont fermées par Renault et par PSA le sont dans le cadre d'un plan. Et donc dans le plan, c'est pas de la cessation d'activité. Le risque, effectivement, sur certaines concessions automobiles à la fin d'année, c'est de la cessation d'activité.
Oui. Merci beaucoup en tous les cas. Voilà, la courbe en V, on l'a trouvée. Elle est là. Et puis j'ai retenu aussi ce que vous disiez, il y aura l'automobile des champs et l'automobile des villes. Merci beaucoup François Woody d'avoir été avec nous dans un instant. Un autre secteur évidemment qui a beaucoup souffert, ce sont les intérimaires, le secteur des intérimaires, avec Christophe Catoire, décidément, pardon, qui est président de France et de l'Europe du Nord d'Adecco. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Christophe Catoire. Il est président pour la France et l'Europe du Nord du groupe Adecco. Christophe Catoire, merci d'être là. Surtout que le groupe Adecco est basé à Lyon. Donc, il faut venir jusqu'ici. Sans problème, maintenant qu'il y a le déconfinement. Christophe Catoire, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Davos, dans la neige et dans un climat totalement différent, plutôt euphorique. On parlait beaucoup déjà de transition écologique, mais voilà, il s'est passé quand même cette crise qui a tout bousculé en 6 mois. J'imagine que pour vous, diriger Adecco en France, ça n'a rien à voir.
Oui, ça n'a rien à voir et en même temps, c'est assez étonnant parce que c'est là qu'on voit la résilience aussi de certains sujets qu'on a évoqués à Davos. Effectivement, en termes économiques, on a eu une actualité dans l'intérim, dans le recrutement qui a été complètement disruptée par cette crise. On a quasiment baissé de 70% en 2 jours et on remonte progressivement à la pente, c'est la bonne nouvelle. Ceci étant, au-delà de l'actualité économique, je pense qu'à l'époque, on parlait beaucoup d'écologie, on parlait beaucoup de responsabilité sociale. C'est probablement dans une crise telle que celle-ci qu'on peut se montrer qu'on est à la hauteur de ce que l'on pouvait dire quand tout allait bien, parce que là, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin.
Oui, comme vous dites, c'est un peu l'épreuve des faits. Hein. Parce que surtout, les intérimaires, ce sont vraiment les premières victimes de la crise. Hein. Lorsqu'on regarde les chiffres qui ont été donnés par l'INSEE au premier trimestre, destruction d'emplois près de 500 000 et dont 40% dans l'intérim. Une chute absolument gigantesque.
Oui, c'est sûr que le premier réflexe d'une entreprise quand elle vit cette période de confinement, c'est de se dire je n'ai plus d'activité, mes contrats temporaires, j'y mets fin. Et ce que l'on voit depuis quelques semaines maintenant, c'est que quand l'activité reprend progressivement, puisque certaines activités, certains secteurs reprennent des couleurs, c'est aussi le premier réflexe que de les recruter. Et on voit qu'en ce moment, c'est à peu près 4 000 à 5 000 intérimaires qu'on remet à l'emploi chaque semaine. Donc on voit que ça reprend. On n'est pas revenu à la situation initiale, pas encore, mais il y a quelques éléments positifs sur certains secteurs.
Donc, ce que vous diriez, c'est que là aussi, on parlait de la reprise en V dans le secteur de l'automobile, en espérant que ça ne soit pas un W. On peut dire la même chose, à votre avis, dans l'intérim?
Oui, alors, dans l'intérim, ce que l'on voit, on est vraiment tributaire des clients à qui on va travailler. C'est-à-dire, juste pour prendre deux, trois exemples, dans la construction, ça a été probablement le plus difficile et le plus dramatique sur les deux premiers mois. C'est reparti quasiment au niveau d'avant-crise maintenant. C'est-à-dire, le nombre d'intérimaires qui y travaillent est quasiment au même niveau qu'avant la crise. Vous avez cité l'automobile, on parle beaucoup d'aéronautique en ce moment. À l'inverse, dans ces secteurs d'activité, on voit que ça va être beaucoup plus long. Et là, malheureusement, on va pas avoir une reprise de situation qui va être la même. La question qui se pose pour nous, c'est gérer le temps court, bien sûr, parce qu'il faut s'adapter très rapidement, les entreprises doivent s'adapter très rapidement, d'où le recours à l'intérim. Mais c'est aussi comprendre ce qui va se passer. J'entendais votre reportage sur la partie automobile. C'est sûr que l'automobile, si vous investissez pas sur des compétences qui ont trait à l'électrique maintenant et probablement à l'hydrogène demain, vous préparez pas l'après-crise. Et c'est probablement un des enjeux qu'on a de former, de maintenir des compétences pendant la crise pour se préparer au rebond qui va arriver, qui dans certains secteurs va être plus long, l'aéronautique encore une fois, mais pour d'autres, on peut penser que dans 12 à 18 mois, on va revenir à une situation quasiment normale.
Quand il y a des plans comme ça, il y a soit des CDI intérimaires, comme on dit, soit des intérimaires tout court. C'est les plans de formation, c'est vous qui les payez ou ce sont eux ?
C'est nous, en fait. On a le CDI intérimaire, en l'occurrence, c'est un très bon exemple. Pour donner d'ailleurs la valeur de CDI intérimaire, 130 000 intérimaires chaque jour au sein d'Adecco, 37 000 personnes ont signé un CDI intérimaire. Donc c'est quand même maintenant une proportion importante. CDI intérimaire a été conçu pour que, au lieu d'avoir une prime de précarité, cette prime en fait soit adossée à un fonds formation. Et pendant la crise, on a ouvert des comptes formation pour l'ensemble de ces intérimaires en CDI et on leur a donné un accès à des plateformes digitales. C'est plus de 3 000 CDI intérimaires qui ont candidaté pour soit faire une validation d'acquis d'expérience, qui est aussi une modalité assez innovante, soit se former et quelque part aussi préparer l'après-crise, puisqu'on est allé sur des modules de formation dont on savait qu'ils seraient probablement fortement demandés après la crise.
Oui. Donc oui. L'apprentissage aussi, vous considérez que c'est les mesures qui sont prises, même actuellement par le gouvernement, elles vont dans le bon sens. Ouais, elles permettent de faire le lien. Après, on parlera du chômage de longue durée, mais pour vous, dans l'intérim, c'est une manière de faire le pont.
C'est probablement la meilleure modalité pour les jeunes et notamment ceux qui accèdent au marché de l'emploi pour la première fois. Cette année, on pouvait craindre, comme après chaque crise, que le nombre d'apprentis, d'alternants, puisque les contrats de professionnalisation sont concernés, puissent être divisés par deux ou trois. Et on parle de plusieurs centaines de milliers de jeunes. Mmh. Les mesures qui ont été prises, qui font que la première année, vous avez un incentive qui vous permet d'avoir quasiment un apprentissage qui vous coûte peu, permettre de faire deux choses. Un, de faire en sorte que ces jeunes soient occupés pendant la crise, ne soient pas au chômage. Et deux, permettre aussi de préparer des compétences sur lesquelles, quand la crise arrivera à son terme, on n'aura pas perdu un an ou deux ans de formation avec des gens qui devraient être formés pour faire ça. Tout à l'heure, on évoquait à nouveau la voiture électrique. La voiture électrique, c'est plus du tout les profils mécaniques que l'on avait avant, c'est des profils nouveaux. Si vous ne formez pas une génération, au moment où vous lancez vos usines de batteries, comme on en voit apparaître avec, par exemple, ces joint ventures entre Peugeot et Total, vous n'avez pas les compétences là. Et vous n'avez pas cette reprise qui est tant attendue.
La formation, ça représente combien de votre chiffre d'affaires chez Adecco ?
Aujourd'hui, cette année, on aura fait 130 millions d'euros d'investissement formation. Donc ça devient quand même assez colossal. On faisait 25 millions d'euros il y a 4 ans. Donc c'est devenu vraiment quelque chose de massif. Et au-delà de ça, si je reprends l'apprentissage, j'ai pris l'engagement pendant la crise qu'on formerait autant d'apprentis que l'an passé alors qu'on n'avait pas de crise, c'est-à-dire 7500 personnes. Mmh. La raison en est simple, le marché de l'emploi en aura besoin et j'ai les moyens de le faire.
Oui, d'accord. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes ? Je ne demande pas des entreprises, mais d'intérim, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage ou qui vont être au chômage. Il y a des jeunes, il y a 700 000 jeunes qui vont débouler sur le marché du travail. Est-ce que vous avez une forte demande ?
Alors, c'est un des paradoxes et c'est pour ça que cette crise, il faut la voir vraiment sous un angle sectoriel. Aujourd'hui, j'ai encore des missions pour lesquelles j'ai du mal à trouver des candidats. Et de l'autre côté, effectivement, on voit cette actualité qui est assez lourde en termes de destruction d'emplois, qui fait qu'il y a des personnes disponibles. Alors oui, il y a des demandes importantes dans l'e-commerce, on va retrouver dans l'agroalimentaire, l'agriculture, c'est plus saisonnier, on le retrouve en ce moment, la pharmacie bien sûr. Ce qui est en train de se mettre en place, qui est quand même tout nouveau, qu'on n'avait pas vu du tout durant la crise de 2008, et qui est pour moi la cause majeure qu'on doit avoir, c'est des entreprises qui s'associent sur des territoires, parce que l'emploi c'est local, il faut jamais l'oublier, qui sont aidées par des mesures que le gouvernement est capable parfois de prendre en 3-4 semaines sur la mobilité, les mobilités, ce qu'on appelait le prêt de main d'œuvre. On a des décrets qui sont sortis suite à des demandes 3 semaines après pour faciliter la vie en termes de consultation, etc. Et Dieu sait qu'il fallait ça, je veux dire, l'urgence le justifie. Et donc on commence à voir, et on est un peu au milieu de ça, puisqu'il faut un tiers de confiance, des entreprises qui se réunissent, certaines qui ont des besoins de recrutement. Je prends les aides-soignants. Avec le Ségur de la santé, on a besoin de beaucoup d'aides-soignants. Le premier profil qu'on a en ce moment, c'est des chauffeurs de camions. Ça peut sembler vraiment chauffeurs de camions et de bus. Et ben, quand vous avez d'un côté des entreprises qui, dans le retail ou dans la restauration collective, vivent des heures très difficiles, et qu'au lieu de faire un plan de départ volontaire et de vous retrouver avec des gens qui passent par la case chômage, vous voyez plusieurs entreprises qui se mettent autour de la table et qui disent « moi j'ai besoin de cette compétence, j'ai pas tout à fait cette compétence, mais moyennant un peu de formation, je peux te donner un avenir sur le territoire sans mobilité », ça, ça se commence à se mettre en place. On le fait avec notamment une filiale qui s'appelle LHH chez nous. Et sans dire que ça va annuler...
C'est un nouveau métier un peu pour l'intérim quand même.
C'est totalement nouveau. Oui. C'est totalement nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois n'est pas coutume, toutes les parties prenantes, ça s'appelle politique, partenaires sociaux, régions, entreprises, parce que la crise, elle est lourde, commencent à se mettre autour d'une table pour trouver des solutions très pragmatiques. Et ça, c'est très encourageant. Je ne veux pas être naïf. Ça va pas résoudre 100% de ce que l'on voit en termes de plan de départ volontaire. Mais néanmoins, ça peut en réduire considérablement l'impact. Et ça peut donner plus de responsabilités aux entreprises qui les portent.
Tiens, quand vous voyez l'histoire là, des intérimaires dans une usine du nord de Peugeot, vous vous êtes dit quoi? Ils charrient. On va rappeler rapidement qu'ils voulaient faire venir des gens de Pologne au détriment d'intérimaires français. Vous avez réagi comment?
Moi, je pense que l'entreprise Peugeot avait des collaborateurs d'un côté et de l'autre et a voulu faire ce transfert de main-d'œuvre parce que c'était aussi des permanents dont ils devaient se préoccuper. Ouais. Après, vu la sensibilité du sujet sur les territoires et pour être originaire de cette région, cette belle région du Nord, je peux vous dire que c'est effectivement, sur un plan émotionnel, c'est difficile pour les personnes de comprendre.
Ouais.
Et donc,
en ce moment, ouais.
Le fait qu'il y ait un équilibre qui a été trouvé entre le fait de maintenir de l'intérim, de former des gens dans le bassin d'emploi qui étaient concernés dans le Nord et d'avoir quelques personnes qui aient été reclassées de Pologne, je pense que la gestion de l'équilibre qui a été opérée est probablement la bonne solution.
Le chômage de longue durée, Christophe Catois, tel avec le processus tel qu'il a été défini, est-ce que pour vous c'est un manque à gagner en fait, non?
Non.
Parce que, si, ça permet, enfin, alors, du coup, l'entreprise ne fera plus appel à des intérimaires.
Alors, malheureusement, ces entreprises, l'intérim, pendant un bon moment, je pense qu'ils n'en auront pas beaucoup besoin. Le système où il est pour moi intelligent et adapté à ce que je vois de la situation de l'emploi, c'est que vous avez des filières industrielles qui pendant quand même, non pas 12 mois, mais on parle de 3, 4 ou 5 ans, notamment dans l'aéronautique, on parle d'un retour à une meilleure situation probablement en 2023 ou 2025. Préserver des compétences dans ces secteurs, ça justifie non pas de prendre de l'intérim pendant, malheureusement il y a peu de place pour ça, mais c'était de trouver le moyen qu'ils ne soient pas en chômage de longue durée sans travailler et sans avoir aucun espoir d'être formés. Mm-hmm. Le pire en France, et c'est ce qu'on ne voit pas dans les autres pays d'Europe, c'est que plus de la moitié des chômeurs sont déjà en situation de chômage de longue durée, plus de 12 mois. Et quelle est l'approche d'une entreprise sur quelqu'un qui n'a pas travaillé plus de 12 mois? C'est dire cette personne, ça va être difficile de la réintégrer parce qu'elle n'a plus l'habitude d'aller travailler. Il faut absolument éviter ça. Et je pense que pour des secteurs sinistrés, en tout cas ils le sont pour une période qui est relativement longue, c'est une bonne mesure. Il ne faut pas l'appliquer partout. Et là, effectivement, à contrario, dans des secteurs dont on sait que le rebond peut arriver dans 12 mois, il ne faut pas prolonger trop longtemps le support parce qu'à un moment donné, il faut remettre les personnes à l'emploi, c'est essentiel. Et il y a des secteurs sur lesquels on sait qu'il vaut mieux les occuper à se former qu'à d'être en inactivité chez eux.
Oui. En un mot, le CDI intérimaire, en fait, finalement, ça a quand même été une très très bonne mesure, non?
Ouais, c'est une mesure qui a changé, clairement, qui a changé notre actualité au quotidien, qui permet, parce qu'on stabilise une relation avec un intérimaire, de le former et d'investir massivement en formation.
C'est contradictoire en soi, oui.
Et pendant la crise, ce sont des personnes qui étaient en activité partielle, donc très protégées, là où parfois certains formats de contrat n'ont pas ces mêmes protections. Le contrat arrive à terme et malheureusement, la protection n'est plus là.
Il y avait combien de CDI intérimaires ou chômage partiel chez vous?
On avait, en équivalent temps plein, on a un peu plus de 20 000 personnes CDI intérimaires. On est monté au plus haut de la vague à 22% de personnes en activité partielle.
Ouais. Ouais, c'est assez drôle. Merci beaucoup Christophe Catois, hein. Passionnant ce que vous nous racontez. On voit bien que la formation est devenue, vous êtes presque devenu un groupe de formation, hein, on peut dire ça comme ça. Merci beaucoup Christophe Catois, donc le patron pour la France et l'Europe du Nord du groupe Adecco. Dans un instant, c'est le président du conseil de surveillance de Publicis, Maurice Lévy, qui est notre invité.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance de Publicis. Merci d'être avec nous, Maurice Lévy.
Merci de m'avoir invité.
Il se passe beaucoup de choses. Vous avez publié, du reste, un texte très intéressant sur un peu sur le monde d'après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le monde d'après, notamment dans la pub. Parce que la pub a beaucoup dégusté, et nous aussi, nous les médias, on a dégusté avec. Lorsque vous regardez les derniers chiffres qui montraient, les chiffres Kantar, que c'était moins 80%, et que sur l'ensemble de l'année, ça sera moins 10% pour le marché de la publicité, c'est des chiffres que vous confirmez, que vous observez du moins ?
Non, on ne sait pas du tout ce qui va se passer au cours du deuxième semestre. On sait ce qui s'est passé jusqu'à présent, avec des effets paradoxaux, comme par exemple une audience absolument formidable des chaînes de télévision, et en même temps une faiblesse dramatique, baisse de, pour certains cas, pour certains médias, de 80% effectivement des investissements publicitaires. Mais dans l'ensemble, la baisse sur le deuxième trimestre devrait être bien sûr dans la ligne de ce qu'on dit un certain nombre de centres d'analyse où ils ont évoqué des baisses de l'ordre de 20-25%, un peu moins d'ailleurs, on ne sait pas trop. Et le deuxième semestre connaîtra une baisse, mais très largement inférieure à tout ce qui est annoncé brutalement sur le deuxième trimestre.
Oui, là on était dans les moins 67, moins 80. Oui, parce que le mois de juin, on voit c'est déjà le retour. Et pour cause, on parlait d'automobile, l'automobile qui repart en V, du moins pour l'instant, pour le mois de juin.
Oui, soyons prudents.
Non, absolument, soyons sur prudents. Le mois de juin. Oui. Mais ça fait du bien de dire d'avoir des nouvelles positives.
Mais il y aura beaucoup de bonnes nouvelles, mais qui seront parcellaires, qui seront très partielles, qui concerneront quelques secteurs, avant de retrouver une économie qui va repartir. Il ne faut pas s'attendre à une reprise en V. Je crois que ce serait illusoire d'imaginer que l'économie va repartir soudainement. Les gens sont encore inquiets. Ils ne sont pas en train de consommer. Ils ont thésaurisé énormément d'argent. Je ne sais pas quel est le chiffre exact. On parle de 70, de 80, de 90 milliards.
75 milliards, selon les données de l'OFCE.
Mais c'est des sommes assez considérables. Ouais. Ils continuent, malgré le déconfinement, à thésauriser. Et donc, il y a un moment où cet argent va retourner dans la machine économique. Et à ce moment-là, on va sentir le redémarrage.
Mais est-ce que quand même, on peut dire que pour le mois de juin, la pub, elle est de retour ?
Elle est de retour.
Notamment dans l'automobile, qui est le premier annonceur.
Elle est de retour. Partiellement, elle est de retour effectivement, elle revient doucement, ce n'est pas encore un rebond complet puisqu'il y a des secteurs qui sont encore à l'arrêt. On parlait tout à l'heure, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt sur ce qui se passe sur Airbus ou Air France, et bien oui, ce sont des secteurs qui sont sinistrés et qui ne sont pas prêts de repartir avant longtemps.
Et comment est-ce que Publicis a traversé cette crise là ? Il faut s'attendre à quoi ?
Ben, Publicis a traversé la crise en étant déjà et très tôt en télétravail et on a eu la chance, si j'ose dire, de voir comment les choses se passaient en Chine, et nos équipes chinoises ont été témoins de la manière dont les choses évoluaient sur place, et on avait pris les mesures adéquates, et puis ensuite nous avons vu ce qui pouvait se passer ailleurs, et nous très tôt, donc dès le fin février, nous avons commencé à avoir des gens en télétravail aux États-Unis et ailleurs, en Chine dès le mois de janvier, et nous avons installé le télétravail de manière générale sur l'ensemble du groupe à partir du début mars.
Et ça continue ? Les gens sont revenus ou pas ? Vous êtes comme chez
ils sont revenus
Google,
partiellement.
Facebook, ils sont tous...
Moi, je suis impatient de les voir revenir complètement. Et d'ailleurs, eux-mêmes, moi, j'ai croisé beaucoup de gens à Publicis qui sont de retour et qui sont très heureux et très heureuses d'être de retour. Et qui disent, ouf, enfin,
on est là. Et d'avoir conservé leur job.
Et c'est pas seulement le souci du job, parce que je crois que les choses ne se passent pas trop mal pour l'instant.
Il y a du chômage partiel chez Publicis ?
Il y a du chômage
partiel. En France,
partiel.
On reste en France.
Hein, oui, il y a du chômage partiel en France.
Combien, à hauteur de combien ?
Oh, il y a quelques centaines de personnes, c'est un peu moins de 10% des effectifs qui sont en chômage partiel. Mais Pour l'instant, il y a surtout eu du télétravail pour la très grande majorité des effectifs.
Et comment ça se passe?
Et puis un drugstore fermé.
Oui,
c'était quand même assez dramatique de voir le drugstore complètement fermé, pas un seul visiteur, pas un seul client, et une situation assez dramatique. Et d'ailleurs, sur les Champs-Élysées, quand vous vous promenez, c'est quand même assez triste encore.
C'est lugubre.
Oui.
Aux États-Unis, pour le coup, la situation est bien plus dramatique, parce qu'on voit bien que la crise de la Covid n'est pas du tout terminée, enfin chez nous non plus, mais enfin elle est maîtrisée pour l'instant. Là-bas, les chiffres sont assez préoccupants.
Aux États-Unis, il y a trois crises. Il y a la crise du Covid, il y a la crise économique qui va avec, et puis il y a la crise sociétale avec Black Lives Matter. Et donc là, on se retrouve dans une société qui est très déstabilisée, qui est très interrogative, à un moment où se prépare l'élection présidentielle avec tous les débats qui vont avec. Donc une situation très difficile, très compliquée pour les entreprises, très compliquée pour les gens. Et très compliqué aussi pour les médias, parce que c'est un sujet, c'est de la nitroglycérine, c'est très compliqué à gérer et très compliqué à communiquer.
Et pour la pub? Et pour la pub?
La pub, elle souffre.
Les grands acteurs comme
elle
vous.
Elle souffre aux États-Unis comme elle souffre ailleurs. Je veux dire, c'est pas très compliqué quand les usines ferment, quand on ne vend pas de voitures, eh bien on ne fait pas de la pub. Il faut être idiot pour faire de la pub quand on n'en vend pas.
Bien sûr.
Et quand on ne peut pas vendre. Et quand les magasins sont fermés, eh bien on ne fait pas de pub. Donc, une activité qui est très en retrait. Cela dit, nous, en ce qui nous concerne, nous avons pris des précautions depuis très longtemps. Nous avons commencé à nous transformer. La dimension digitale est une dimension qui est très ancrée dans le fonctionnement de Publicis, et ceci nous donne un certain nombre d'avantages par rapport à la concurrence. Cela dit, on souffre comme tout le monde, mais on est vaillant. Arthur Sadoun a fait un travail absolument fantastique pendant toute cette période. Les équipes ont été tenues au courant de manière extrêmement étroite, et puis surtout la priorité de l'action du directoire et d'Arthur a été de veiller à la santé de nos collaborateurs et préserver leur santé. Donc,
directoire qui était opérationnel. Est-ce qu'il faut s'attendre déjà à un grand chambardement? On voit bien quand même que ça a des conséquences sur les acteurs de la publicité, sur le marché de la publicité. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles fusions, des rapprochements, une opération structurante, comme on dit?
Il y aura nécessairement des choses qui vont se passer après. Alors, on ne sait pas quand est-ce que c'est le après. Et l'immédiat après, il ne va rien se passer. Donc, c'est-à-dire que, en supposant que la crise du Covid-19 soit interrompue à l'été et qu'on puisse repartir en s'embrassant les uns les autres et sans gestes barrières parce que le problème est définitivement réglé, même en supposant qu'on soit dans cette situation-là, il ne faut pas espérer qu'il y ait un après immédiat. Il va y avoir une période assez anormale pendant laquelle...
Mais ça va, il y a des acteurs fragilisés, donc c'est peut-être l'occasion
Oui, mais il y a d'abord à se stabiliser bien
soi-même,
les équipes, à se renforcer. J'ai l'impression que Publicis sera une des entreprises qui va sortir renforcée de la crise. C'est mon sentiment profond. Et j'ai l'impression aussi que la vitalité et l'agilité avec laquelle nous avons répondu aux problèmes de nos clients, parce qu'il a fallu refaire toutes les campagnes. Il ne faut pas rêver. Je veux dire que le Covid et plus la crise sociale ont conduit à revoir tous les contenus de campagne, tous les films, toutes les campagnes dans l'univers du numérique et à changer la nature des messages et parfois même, bien sûr, les canaux de diffusion. Donc ça a été un travail intense.
Mais qui ne fait que commencer, j'ai envie de dire.
Et qui ne fait que commencer.
Recommencer. Parce que
Oui, le travail qu'on a fait jusqu'à présent, c'était un travail que j'allais qualifier de gratuit, puisqu'il s'agissait de refaire des campagnes qui étaient déjà en route, etc. Et sans qu'il y ait de nouveaux contrats, sans qu'il y ait autre chose que de...
C'est vous qui avez dû
retravailler. Voilà, ça fait partie de la prestation que nous devons à nos clients. Et puis j'espère que là, nous allons entrer dans une phase...
Ouais.
Ah oui, il fallait revoir, mais absolument chacun des messages. Est-ce que le message est aujourd'hui supportable? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est audible? Est-ce que c'est le genre de choses qu'on a envie d'entendre d'une entreprise? Et puis surtout, est-ce qu'il est politiquement correct dans une époque où on est soumis à non seulement le problème de santé, mais aussi des débats sur la société qui sont extrêmement importants?
Oui, en même temps... On a bien vu quand même que sur les réseaux sociaux, le groupe L'Oréal, qui avait voulu être très politiquement correct, s'est fait totalement bâcher.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un sujet...
Donc, politiquement correct, il faut faire très attention.
C'est un sujet très compliqué. Il ne faut pas croire que c'est univoque et que c'est assez facile et qu'il suffit de dire, ben voilà, on va adopter telle ligne. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, à Publicis et sous l'égide...
Sur L'Oréal, vous en pensez quoi? Pas vous, L'Oréal?
Oui, c'est nous.
C'est vous qui avez fait ce message.
Pas cette opération spécifiquement. C'est une.
Et vous les avez conseillés sur interne, ce message, Maurice Lévy?
C'est une décision interne de L'Oréal et nous essayons de les aider du mieux que nous pouvons. Mais cela illustre la complexité de la décision. De quoi s'agit-il, en l'occurrence?
Oui.
Il s'agit de produits blanchissants qui sont destinés à apparaître comme étant un peu plus blanc, et en particulier pour les publics asiatiques.
Absolument, c'est surtout ce que disait Philippe dans un autre Sisley, c'est surtout pour les asiatiques.
C'est pour les asiatiques.
Mais bon, nous on le voit.
Et donc l'idée,
les dentifrices blanchissants, on a ça aussi. Hein.
Non, mais dentifrices blanchissants, on a tous des dents plus ou moins blanches, et donc on les blanchit. C'est tout simple. Mais là, il s'agit de l'apparence des gens, et on leur dit vous allez avoir une peau un peu plus blanche.
D'accord.
Et donc on entre dans un débat qui est le modèle dominant et le modèle des blancs, et donc à partir de là, bon. Et il est normal que L'Oréal se pose la question, et cette décision de supprimer le whitening et toute l'approche qui consiste à dire vous allez paraître plus blanc, c'était une décision difficile qui a été prise, et il fallait ensuite l'assumer, ce qui a été très bien fait par la direction générale de L'Oréal. Donc, mais c'est compliqué.
C'est là où j'explique une chose bête, c'est que
dans cet univers, c'est un peu.
Vous êtes vraiment en première ligne, hein, la publicité.
Mais à tout point de vue. On est des cousins germains, souvent des faux amis, mais nous sommes extrêmement liés, et c'est vrai que nous sommes une représentation de la société et du reflet de la société.
Alors,
donc à ce moment-là, on se trouve en première ligne pour communiquer sur les entreprises.
Justement, je disais, le premier annonceur, ça fera le lien dans l'orage, hein, le premier annonceur sont les automobiles, Renault, Peugeot, etc. Maintenant, on nous dit, à la limite, il ne faut plus acheter de voiture parce que la transition écologique, il faut avoir un comportement responsable. Et donc, moi, j'ai lu un rapport de Good Planet qu'on connaît bien, puisque c'est notre ami Yannick Arthus Bertrand.
Il dit, attention,
la voiture, la publicité nous fait acheter des voitures, il faut arrêter d'acheter des voitures. Et puis, la publicité est un acteur de la surconsommation. Donc, vous êtes quand même visé par ce monde, cette vague verte là qui est là.
Oui, on a toujours été visé. Je veux dire, ce n'est pas récent. Hein, en 68, on était avoué aux gémonies. C'est arrivé de nouveau après le premier choc pétrolier. Ça a été ensuite 81, etc. La publicité est systématiquement
synonyme de surcompensation, consommation, pardon.
Non. Elle n'est pas synonyme de surconsommation. Pardon. Elle est synonyme de je cible la publicité parce que c'est facile. Et donc, tous ceux qui n'ont pas de choses fondamentales à dire sur le fond des choses, ils se disent, attaquons la publicité, de toute façon, ça fera du bien. Et en tous les cas, ça fera pas de mal à mes électeurs ou ça fera pas de mal à mes amis. Et donc, c'est une situation assez facile. Et généralement, c'est le résultat de gens qui n'ont pas suffisamment réfléchi aux problèmes de fond et qui ne comprennent pas très bien le fonctionnement de la publicité, qui est un formidable régulateur et qui aide à faire baisser les prix de manière considérable et qui améliore la vie des gens
loyers,
au quotidien.
Pro domo de un des plus grands publicitaires français. Maurice Lévy, vous avez travaillé sur le monde d'après, le monde d'avant, etc. La pub, c'est pas quand même un peu tel qu'elle existe aujourd'hui? C'est pas un peu le monde d'avant quand même? Est-ce qu'il ne faut pas la redéfinir pour le monde d'après?
La pub se redéfinit régulièrement. Et la
mais
pub
en ce moment.
Fait, ouais. mais bien sûr, mais elle est en train de se redéfinir. Ouais. Elle se redéfinit aussi bien par les canaux de diffusion. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Ouais. Parce qu'il y a certains qui se disent, la télévision, est-ce que c'est le bon moyen?
Bien sûr.
Et donc, à partir
d'où
de là...
D'où les problèmes de BFM.
Mais bien sûr, non, mais c'est vrai. Et c'est une vraie question. Et c'est un excès. Que de dire, il ne faut plus utiliser les canaux de télévision. C'est faux. C'est une erreur. Parce qu'il y a des auditeurs, il y a des téléspectateurs, et ils ont un moment où, pendant lequel ils peuvent recevoir des messages qui peuvent compléter leur information et former leurs décisions. Il y a certains qui disent, il faut aller vers les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux sont critiqués.
Il y a beaucoup d'annonceurs qui quittent le
et donc, Facebook, de et ce fait, c'est le contrebalancement. Oui. Automatiquement, l'excès amène toujours une correction. Et l'excès d'attrait des réseaux sociaux conduit ensuite à porter un jugement un peu brutal et négatif, sans même prendre le temps de regarder ce que sont les véritables problèmes et pourquoi il faut être relativement mesuré là-dessus. Et puis, il y a surtout le contenu. Et le contenu change. Et le contenu a régulièrement changé. Et la publicité qui était très séductrice, qui était un peu machiste, etc.
Un peu machiste, corrigée. Vous pouvez dire beaucoup.
Mais bon, oui, ouais. Mais je dis un peu parce que je suis quelqu'un de modeste. Elle a été machiste, même si Publicis s'est battue contre cela et que nous avons édicté des règles extrêmement précises dès la fin des années 70.
Donc, non, mais l'enjeu, c'est plus la transition
écologique. Mais la tendance, elle est claire vers une publicité beaucoup plus responsable, beaucoup plus authentique, et où la dimension émotionnelle doit être accompagnée d'une dimension rationnelle très puissante, de façon à ce qu'il y ait un bon équilibre et que le choix soit bien mesuré, et que quand quelqu'un prend une décision de faire un acte de consommation, un acte d'achat, un acte de souscription à quelque chose, ou un voyage, ou quoi que ce soit bien mesuré, qu'il n'y ait pas uniquement la séduction publicitaire qui ait fonctionné. Mais la séduction est importante.
La place du digital, lorsque vous voyez toujours selon Kantar, qui va expliquer à nos auditeurs, téléspectateurs, Kantar c'est un peu la référence, quoi. C'est le bon baromètre qui dit Amazon, c'est quoi? C'est la marque Amazon, ça vaut 400 milliards de dollars. Vous dites quoi?
Je dis que c'est un travail...
D'ailleurs, c'est Apple, Google...
C'est un travail considérable qui a été fait par Jeff Bezos. Alors, je trouve que les sommes sont un peu extravagantes. C'est-à-dire qu'on rentre aujourd'hui dans un univers où il y a un certain nombre de sociétés qui valent plus de 1000 milliards en market cap, en capitalisation boursière, ce qui, quand même, est un peu excessif. Que la création de richesse a été très lourdement concentrée sur très peu d'acteurs et en même temps très peu de personnes, ce qui pose un problème pour la société. Qu'il y ait des gens qui s'enrichissent et qu'il y ait une répartition de la richesse qui soit inégale parce que il y a des contributions plus fortes de certains par rapport à d'autres, c'est quelque chose qui a toujours été le trait de l'histoire. Mais en ce moment, il faut bien reconnaître que ce que nous connaissons est assez unique. Il y a, je ne veux pas dire de bêtises et je ne vais pas utiliser des pourcentages sans les maîtriser complètement, mais on parle de 90-99% ou que sais-je, de la richesse créée qui va sur 25 personnes. C'est quelque chose qui est absolument anormal. Donc, je pense que ces choses vont se corriger. Moi, je suis... alors, sur le monde de demain, moi, j'ai une préoccupation plus fondamentale. On va se retrouver avec un problème considérable. Vous l'avez évoqué avec ce qui se passe chez Air France et chez Airbus et d'autres, où il va y avoir des licenciements. Il va y avoir des gens qui vont être privés de leur travail.
Il y a un nombre de faillites.
Et il va y avoir un nombre de faillites assez considérable. Des restructurations, n'en parlons pas. Et il me semble extrêmement important, si on veut motiver les gens, de leur offrir non seulement un horizon, mais aussi de les amener à travailler, pardon, ça va pas plaire, plus, à produire plus, mais aussi à partager mieux. Et c'est pour ça que moi je suis à fond pour la participation au capital des salariés. Je pense que les salariés doivent avoir une part importante du capital, qu'il faut trouver des textes de loi qui vont permettre de le faire. Et je pense que c'est la solution pour motiver les gens, pour que l'entreprise France se remobilise et que les entreprises elles-mêmes puissent être conquérantes. Et il faut mieux partager les fruits de l'expansion. Il faut mieux partager les fruits de la croissance et mieux partager les fruits de la création de valeur. Je absolument déterminé là-dessus. Je pense que c'est la chose à faire si on veut avoir des salariés qui ont le sentiment d'être traités dignement, qui comprennent très bien qu'il y a une période difficile, et au lieu de leur dire une fois de plus, vous allez faire les efforts, les petits, et qu'il y ait uniquement les actionnaires qui, en bout de course, s'enrichissent, on va leur dire, écoutez, vous allez faire les efforts, c'est indispensable parce que c'est la vie de l'entreprise, mais en même temps, vous allez en recevoir le fruit et le produit.
La participation chez Maurice Lévy, oui, chez Publicis, c'est combien? C'est quoi?
Oh, on a les textes légaux.
Oui, mais donc il n'y a pas plus, quoi.
Il n'y a pas plus.
Mais vous voulez qu'il y ait plus?
Il y a des stock options, des choses de ce genre. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un texte qui permette la distribution d'actions en franchise d'impôts, en franchise de taxes, en franchise de charges sociales, et que les salariés puissent devenir actionnaires. En plus, ça a un autre avantage.
C'est l'actionnariat salarié, ça.
Pardon ?
C'est l'actionnariat salarié.
Oui, exactement, c'est tout. Oui. C'est tout. C'est ce qu'on appelle le capitalisme inclusif. Et ça veut dire tout simplement que non seulement les salariés vont en bénéficier et bénéficier des fruits, non seulement ça peut faire une petite pelote pour la fin de carrière, mais en plus, ça ancre l'entreprise un peu mieux, ça donne un poids aux salariés un peu plus importants dans les décisions qui sont prises, et plutôt que de chercher des solutions abracadabrantes sur comment est-ce qu'on fait de la co-gestion, comment est-ce qu'on renoue le dialogue social, on a une solution qui est toute simple, et il faut pour ça des textes qui le permettent.
On fait de la co-gestion sur les bénéfices et sur le capital. Merci beaucoup Maurice Lévy, très intéressant. Merci, c'est vrai, un secteur, la publicité est difficile, mais en même temps on voit bien la transformation dans laquelle vous êtes engagé. Merci d'avoir été avec nous, président du conseil de surveillance donc du groupe Publicis. Voilà, c'est la fin de l'RH. On se retrouve bien sûr demain à 8h15 et dans l'RH. Bonne journée.